France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des hommes qui chutent ce samedi dans Plan large avec Valérie Donzelli et Kelly Reichardt et aussi Hassan Hadi et encore Sophie-Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Ce que le cinéma majoritaire et ses injonctions esthétiques fait aux femmes, comme l'analyse si finement notre consoeur, la critique Muriel Joudet, il le fait aussi aux hommes, jusqu'à l'absurde et l'improbable. Qui ne s'est étonné récemment qu'un architecte brutaliste sorte du camp de Buchenwald comme s'il y avait passé tout son temps à soulever de la fonte, ou que le modeste et terne employé de bureau de la dernière adaptation de L'étranger de Camus arbore sur les plages algéroises un torse avantageusement sculpté? On en sait d'autant plus gré à certains films de nous proposer des hommes normaux, des vrais corps, même dans des circonstances exceptionnelles. Qu'ils soient filmés par des réalisatrices niées, évidemment, sans doute pas pour rien. Pour son 9e long métrage, l'actrice et cinéaste Valérie Donzelli regarde ainsi un homme tombé, c'est du moins l'avis de son entourage, quand pour lui, il s'agit bien plutôt du choix radical d'une vie différente, celle de l'écriture, dût-elle se payer d'un déclassement social. À pied d'œuvre est l'adaptation très réussie de l'éponyme roman autobiographique de Franck Courtès, où il racontait comment, abandonnant une carrière de photographe à succès pour se consacrer à l'écriture, il avait découvert le précariat ubérisé, qui est le quotidien des rouages invisibles de l'économie contemporaine. C'est Bastien Bouillon qui l'incarne au bord de la dissolution, et on est ravi d'en parler dans un instant avec Valérie Donzelli. Chez Kelly Reichardt, c'est Josh O'Connor qui prête son beau corps fluet dans le Massachusetts de 1960. Un voleur de tableaux assez bras cassés qui est bien le seul à se prendre pour un mastermind. Elle nous en parlera tout à l'heure. En fin d'émission, le cinéaste irakien Hassan Hadi évoquera les influences irano-roumaines qui ont permis au gâteau du président son premier long métrage et le premier aussi de son pays à figurer en sélection officielle au Festival de Cannes, d'y remporter la caméra d'or. Et Sophie-Catherine Gallet exhumera un premier film, là encore celui d'un réalisateur oublié de la nouvelle vague tchécoslovaque, Nek Bocak. Son Personne ne rira montre lui aussi la dégringolade sociale d'un homme, décidément. Mais pour l'heure, tout commence par un choix de vie et une voix.
À la lecture de mon premier livre, un journaliste littéraire m'a dit « Vous irez loin ». Je suis allé jusqu'à la rue Pigalle, au 6e étage d'un immeuble en travaux. Le principe de la plateforme est simple. Un client manifeste le besoin d'un service que Jobbing propose aussitôt à plusieurs travailleurs. Les enchères à la baisse commencent. 1 euro de différence dans votre tarif suffit à vous faire perdre la mission. Le moins cher emporte la mise. Misérable, forcément, puisque la concurrence est sans limite de prix.
Ça va, tonton ?
Ouais.
Ah, ne remplis pas trop le sac, sinon c'est lourd à porter.
Ces petits boulots ont l'avantage sur l'emploi salarié de me laisser du temps pour écrire. C'est ainsi, par un chantier peu payé, auquel rien ne m'avait préparé, que j'ai changé de vie.
Bonjour Valérie Donzelli.
Bonjour.
Sur des images de démolition d'un appartement parisien, ce qu'on vient d'entendre, c'est la voix off de votre protagoniste, inspirée de Franck Courtès, mais il est rebaptisé Paul Marquet dans le film, et cette voix est dite par celui qui l'incarne, évidemment, Bastien Bouillon. Alors, la voix off, c'est un peu la tarte à la crème de l'adaptation d'un livre, quand elle n'est là que pour donner une sorte de plus-value littéraire à ce qu'on voit à l'écran, au risque de n'être que l'illustration un peu pléonastique de ce qu'on entend. Or, elle fonctionne très bien chez vous, cette cette voix, sans doute parce que vous la pratiquez depuis longtemps. Vous avez un vrai goût de la voix off, héritage truffaldien peut-être. Comment est-ce que vous l'avez pensé avec votre co-scénariste Gilles Marchand, cette voix off? Est-ce que vous avez eu un peu peur de la mettre ou c'était évident qu'il fallait la mettre?
Non, j'ai pas du tout eu peur. Ça me fait rire parce que je crois que si j'avais entendu ça avant, j'aurais jamais osé faire ça.
Ah c'est risqué toujours.
Mais c'est marrant parce que j'ai une sorte d'inconscience, d'insouciance peut-être au jugement qu'on peut porter sur mes films et sur le bon goût, le mauvais goût, je ne sais pas ce qu'il faut faire, pas faire. Enfin, je vois pas du tout les choses de cette façon-là. Et c'est vrai que pour moi, c'était tellement évident qu'il fallait entendre ce texte si bien écrit qu'en fait, c'était surtout ça, en fait. C'était d'entendre les mots de l'auteur. Parce que je trouve que le livre, évidemment, il m'a parlé dans le fond. Il m'a parlé parce que ça parle de choses que je touche aussi du doigt, à mon endroit du cinéma et tout ça, sur le monde tel qu'il change, sur toutes ces choses-là. Mais ça a été aussi un vrai coup de cœur littéraire dans le bon sens du terme, qui est dans le talent de cet écrivain. J'ai aimé son écriture. Et j'ai trouvé qu'il réussissait à dire de façon extrêmement juste, subtile, simple, sans aucune fioriture, finalement quelque chose d'assez difficile à raconter. Et je me suis dit que moi, je pourrais pas faire mieux avec mes mots. Et donc j'ai eu envie de rendre hommage aussi à son texte, en fait. Et c'est comme ça que ça s'est construit, finalement, cette idée du livre qu'il écrit, puisque, comme le dit Franck, c'est un long monologue, son livre. Donc c'est comme si j'avais adapté une sorte de monologue, quoi. Et donc ça me paraissait cohérent de commencer l'écriture par l'écriture, c'est-à-dire par le texte lui-même.
Est-ce que ça peut influencer des choix de mise en scène, par exemple, l'écriture particulière de Franck Courtès?
Oui, parce que comme c'est quelqu'un... je pense que ce qui m'a intéressée, c'était d'abord qu'il ait été photographe, qu'ensuite il raconte qu'il fait des petits boulots, donc des travaux manuels. Et j'ai l'impression que c'est ce que disait Gilles Marchand lors des différentes interviews, et c'est toujours intéressant d'écouter ce que les autres racontent de soi, parce que finalement, on se rend pas compte, nous, de comment on travaille, puisque on se connaît que soi. Enfin, je veux dire, ça paraît bête ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'impression que tous les metteurs en scène font les films comme moi. En fait, pas du tout. Chacun a sa façon de faire, quoi. Mais moi, je ne sais pas comment font les autres, puisque je ne voyage pas assez dans les films des autres pour le savoir. Et Gilles, pour le coup, lui, il travaille avec différents collaborateurs, donc il a plus cette expérience-là. Et donc, il disait que j'avais un rapport au cinéma qui était à la fois manuel et cérébral. Et je pense que le fait que dans le livre, il y ait l'histoire de cet écrivain qui convoque l'intellectuel, l'imaginaire, le cerveau dans la pensée, quoi, et en même temps qu'il fasse des travaux manuels, donc qu'il convoque l'artisanat, les mains dans le cambouis, c'est un peu comme ça que j'ai abordé et le film et l'écriture du film. Et ensuite, ce qui m'a intéressé, c'était de raconter l'histoire d'un ancien photographe, c'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, regarde.
Mais il regarde beaucoup, il regarde depuis son soupirail notamment.
Oui, et il regarde beaucoup. Et par exemple, quand j'ai écrit ou imaginé cette scène de dîner chez le père, le premier dîner qu'il fait chez son père, et qu'il regarde les voisins, c'est moi qui... Je me suis dit, il faut qu'il y ait un vis-à-vis, qu'il regarde ses enfants comme si il se projetait dans eux à l'époque de cette adolescence. Où déjà il avait ses rêves qu'il pouvait pas accomplir. Enfin, j'ai essayé de trouver à tous les endroits comment raconter la pensée d'un artiste sans le raconter faire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis ça.
Si, c'est très clair. C'est très, très bien vu sans doute de la part de Gilles Marchand parce que on vous a connu par des premiers films qui étaient très directement autobiographiques et puis vous êtes parti ensuite sur d'autres voies. Vous avez fait beaucoup de films assez vite dans des directions assez différentes. Mais c'est vrai qu'à cause de ses débuts, on se dit à chaque fois qu'est-ce qu'il y a de Valérie Donzelli dedans. On peut se dire que ce film peut-être parle aussi justement de la peur de l'insuccès, de la question de comment on fait des choses différentes, est-ce qu'on va nous suivre. Ça en dit peut-être aussi beaucoup de vos rapports à vos producteurs et productrices. Vous aviez conscience de mettre tout ça dedans?
Oui, parce que au moment où j'en avais pas conscience, je crois que d'ailleurs c'est Truffaut qui disait ça, quand on fait un film, il y a 20% de vérité, 20% d'inconscience, 20% de, enfin je puis bon, je suis nulle en maths, alors je fais un truc qui va faire plus de 20%, 200%, mais en gros, il dit voilà, il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on maîtrise pas. Et ça, c'est ma monteuse qui le dit très joliment. Elle dit que j'ai mon inconscient en bandoulière. Et c'est vrai que j'ai un rapport au cinéma presque un peu comme la psychanalyse. Et j'ai commencé d'ailleurs ces deux chantiers en même temps, j'ai envie de dire. Et j'ai pas forcément conscience de tout ce que je fais au moment où je le fais. Mais j'ai une espèce de foi chevillée au corps et d'instinct qui me dit c'est ça que je dois faire maintenant. Et c'est marrant parce que au moment où j'ai lu le livre de Franck, ben j'étais en fait, je m'en rends compte maintenant, dans la même situation que le héros de mon film. Donc c'est drôle. Et par contre, je savais pas au moment où j'ai écrit le film que j'étais en train d'écrire ce que je ressentais. Enfin, c'est pas aussi logique, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que j'étais à un moment de crise. J'avais le même âge que l'auteur, 53 ans. J'étais en train d'écrire un film que j'arrivais pas à écrire. J'étais dans un conflit dans le travail aussi avec mes producteurs avec lesquels c'était compliqué depuis un moment. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qui allaient pas. Mon père est à l'hôpital. J'étais dans une sorte de passage pas facile de ma vie. J'avais plus de sous. Enfin, ouais, ça allait pas hyper fort. Et puis j'ai lu ce livre. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse un petit film qui parle de quelque chose d'essentiel pour moi, qui est finalement réussir à vivre dans la cohérence de sa vérité, on va dire. T'es con de quitter cet appartement. J'aimais bien la vue. Il avait une belle vue. T'es con d'avoir quitté cet appartement.
Non. Tu mens. Tu donnes pas la bonne raison.
Tu ne donnes pas la bonne raison.
La bonne raison, c'est que t'as trop mal.
La bonne raison, c'est que tu as trop mal.
Paul, t'es pas un vrai pauvre.
Pourquoi tu n'écris pas un livre qui marche ?
Quand on montre des écrivains à l'écran, mais c'est aussi vrai pour toutes sortes d'artistes, hein, on pourrait dire la même chose pour des peintres, des sculpteurs, des musiciens, c'est toujours délicat, il me semble, de montrer moins le mystère de l'inspiration, mais que le travail de création. C'est ce qu'on vient d'entendre ici, c'est quelqu'un qui cherche, qui prend des phrases qu'il a pu entendre dans sa vie, qui les remodèle, qui les place dans la bouche d'autres personnages. Qu'est-ce que ça dit de votre propre pratique de l'écriture et peut-être aussi de la mise en scène, Valérie Donzelli ?
Alors c'est drôle que vous parliez de mise en scène parce que là on entend un extrait qui passe. Je trouve que les extraits du film passent très bien à la radio.
Absolument.
Et je dois saluer quand même le travail de mon preneur de son qui s'appelle André Rigaud et qui a fait un son absolument exceptionnel sur ce film qui fait que quand on est au montage, on a presque l'impression qu'on n'a pas besoin de montage son. C'est lui qui avait fait tout le son tout seul de La Guerre est déclarée. Et j'avais monté, on avait mixé les copies, la sortie de montage. Il n'y avait même pas eu de son, de montage son sur La Guerre déclarée. Tellement son était génial et que je voulais quelque chose qui soit très brut comme ça. Et là, ce qui est drôle, c'est, je fais juste cette petite parenthèse, c'est que quand vous verrez le film, vous verrez que ce qu'on a entendu là ne correspond pas tout à fait à ce que l'on voit. Parce que justement, il y a l'esprit, la vision des autres, les fantômes qui nous entourent, qui se mélangent. Et du coup, ça fait quelque chose d'un peu monstrueux, d'un peu cauchemardesque. Et parfois, l'écriture, ça peut être ça. Ça peut être une phrase qu'on retravaille, on réécrit, on relit. Quelquefois, on a l'impression d'avoir écrit une super scène, on se couche, on est content, puis le lendemain, on la relit, on se dit, oh là là, c'est nul. Puis parfois, on trouve qu'il y a trop de mots. Alors, moi, c'est vrai que j'attache énormément d'importance à la précision et à l'écriture des dialogues. J'adore écrire les dialogues. Et j'adore tout jouer, donc souvent je fais des lectures à haute voix de mes scénarios où je séquestre ma famille entière dans une pièce et je leur dis maintenant, on lit. Et s'ils s'ennuient, s'ils arrivent à dire le texte, c'est qu'il est à peu près cohérent et bien écrit. Là, ce qui était génial avec Gilles, c'est que je crois qu'il est encore plus pointilleux que moi sur la précision des mots. Audrey Diwan, avec qui j'avais écrit aussi à cette qualité, c'est vrai que c'est génial parce que quand on écrit un dialogue, il est pensé, là en l'occurrence, par deux cerveaux. Donc, ce que disent les personnages, c'est vraiment très réfléchi. C'est pour ça que j'aime que les acteurs disent le texte précisément. Et j'ai l'impression que la mise en scène, en fait, elle commence, pour moi, dès le scénario. J'imagine mes films quand je les écris. Je n'ai pas un rapport au scénario, puis à la mise en scène. C'est des choses, il n'y a pas de frontières, en fait. Pour moi, c'est l'objet film qui compte. Et en fait, le film, j'ai besoin de le faire naître à tous les endroits de fabrication et de réussir à ce qu'il me paraisse vrai. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que quand je peux pas m'ennuyer dans ce travail, ça m'intéresse pas de filmer un scénario, ça m'intéresse pas de faire des plans pour faire des plans. Ce que je veux, c'est être au plus juste pour raconter par la mise en scène quelque chose d'extrêmement opaque, qui est l'intimité de ce qui se joue. Et ça, c'est quelque chose de difficile à faire, parce que si c'est trop souligné, ça nous sort. Si c'est pas assez, ben ça nous ennuie. Enfin, c'est vraiment un curseur pas évident. Et c'est ça la difficulté du cinéma, c'est l'incarnation.
Est-ce que ça veut dire que ce travail d'écriture continue sur le plateau, ou tout ce que vous avez prévu, puisque la mise en scène est déjà pensée au départ, peut se modifier vraiment radicalement, parce que tout d'un coup il se passe quelque chose, ou je pense notamment à ces images en Super 8 qu'on voit apparaître, qui semblent presque comme des notes de tournage qui finalement rentrent dans le film.
Oui, mais c'est ça. Alors c'est marrant que vous parliez de ça, parce qu'effectivement tout peut changer. Après il y a quand même une base, on a un plan de travail, etc. Mais par exemple l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai imaginé comme ça pendant le tournage, et je l'ai même refait parce que ma monteuse montait en même temps que moi. Elle me dit c'est dommage, parce que il serait bien que tu refasses le plan, parce que c'est pas complètement synchrone, et donc on l'a refait vite fait alors qu'on n'avait pas le temps. Enfin, tout est comme ça, quoi. Et pour les Super 8, ça c'est encore autre chose. J'ai un rapport, c'est marrant parce que c'est une artiste qui m'a dit ça, qui s'appelle Cécile Biclair, que j'avais invitée à La Nuit Blanche quand j'avais fait la direction artistique l'année dernière, qui est une femme qui a un talent fou, qui fait des dessins où elle reprend... Elle est passionnée de cinéma, et notamment de cinéma de genre. Et elle veut faire du cinéma, et j'espère que je vais réussir à produire son prochain film, qui est un film d'horreur. Et son premier film, d'ailleurs. Et en fait, elle fait des reproductions de scènes d'horreur, mais genre un visage, mais avec des formats A4. Et ça fait des énormes dessins. Mais c'est... Je vous jure, c'est aller voir son nom, c'est exceptionnel ce qu'elle fait. Et elle a vu mon film, elle m'a dit quelque chose. Et Cécile, si tu m'écoutes, je t'embrasse, parce que je n'ai pas eu le temps de répondre à son magnifique message. Mais elle m'a dit que j'avais dans mon cinéma une forme d'expérimentation populaire. Je crois qu'elle dit ça comme ça, un rapport à l'expérimental en fait. Et c'est vrai que j'aime le cinéma expérimental. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a un rapport trop intellectuel à mon travail et trop conceptuel. Mais j'aime le rapport à l'expérimentation de la matière cinématographique. Et j'ai toujours rêvé de faire des films où je peux gratter la pellicule, mais je sais que j'en rêve. Et à chaque fois, par exemple, dans La Guerre est déclarée, j'avais expérimenté des trucs. Et là, par exemple... Et c'est pour ça qu'il y a toujours du super 8 dans mes films. Il y a toujours des choses, il y a toujours des choses qui sont superposées. Il y a toujours. Et là, le super 8, c'était aussi à la fois une envie de tourner, parce qu'on avait du mal à monter le film. Donc, je savais qu'il y allait avoir cette cérémonie du primo-romancier là qui existe en vrai et que j'aurais pas les moyens de la reconstituer. Donc j'ai voulu prendre des images, prendre du son, je me dis j'en ferai quelque chose. Et donc comme la seule caméra que j'ai, c'est une caméra Super 8, eh ben j'ai dit au producteur je veux des pellicules Super 8 et puis moi je vais aller filmer ça. Et puis ce jour-là il s'est mis à neiger, donc j'ai filmé la neige, je me suis dit, bon ça servira toujours, c'est production value. Et puis après je me suis dit, je vais filmer des déco de Noël parce que quand on va tourner il n'y en aura plus, ça va être trop compliqué à refaire. Et puis quand on a commencé la prépa officielle du tournage et qu'on a développé les petites rushs, ben on a vu que c'était magnifique et j'ai continué dans le film en imaginant que c'était la mémoire de mon héros.
La vie fait parfois des beaux cadeaux au cinéma.
Dans ce duo, c'est que tu fais la voix du haut. C'est toi qui sais, c'est toi qui dis, c'est toi qui penses et moi je suis. Mais les grands soirs, lorsque tu pleures, quand tu as peur, dans ta chaloupe, c'est moi qui parle pendant des heures. Nous sommes en somme un vieux couple. Je ne sais plus où je t'ai connu, c'est à l'école ou au guignol. Je me rappelle cet ingénu qui avait perdu la boussole. Depuis je t'empêche de boire, sauf les grands soirs. Dans ta chaloupe, quand tu me chantes tes déboires, nous sommes en somme un vieux couple. Avec ta tête d'épagneul qui n'a pas appris à nager, avec ma gueule à rester seule derrière des demi panachés. Quand les grands soirs dans ta chaloupe nous parlons de tes états d'âme, et que tu dis femme, mes femmes, nous sommes en somme un vieux le 16 août 1960.
Merci Valérie Donzelli. À pied d'œuvre est en salle depuis mercredi. On y entend cette si belle chanson de Serge Reggiani. Le vieux couple à pied d'œuvre a remporté, on n'a pas dit, le prix du scénario à la dernière Mostra de Venise. Et c'est un film soutenu par France Culture. On s'en réjouit. À noter qu'on a encore jusqu'à demain pour se rendre à la rétrospective qui vous est consacrée, Valérie Donzelli, à la Cinémathèque française, et que l'excellente bande originale de votre film signée Jean-Michel Bernard est disponible en numérique chez Milan Records et Sony Music. Vous écoutez France Culture, et dans Plan Large, c'est encore une réalisatrice qu'on va entendre et qu'on a souvent reçue ici, Kelly Reichardt, la cinéaste décroissante des à côté de l'Amérique, qu'elle soit contemporaine ou westernienne. Elle nous avait, dans les saisons précédentes, parlé de sa rétrospective au Centre Pompidou et de First Co et de Showing Up, ces deux derniers films. Son nouveau, mais comme pour vous d'ailleurs, Valérie Donzelli, 9e long métrage, The Mastermind, est un vrai faux film de casse qui, dans une petite ville du Massachusetts de 1970, voit un père de famille et artiste raté réussir un vol de tableau, mais raté encore tout ce qui s'ensuit. Le portrait d'un homme aussi qui fait tout ce qu'il peut pour échapper aux mouvements sociaux et politiques de son époque avant de se prendre un très littéral retour de bâton du réel. Aussi modeste que très réussi, quasi burlesque par moments, The Mastermind est porté par un Josh O'Connor aussi touchant et lunaire que le pilleur de tombe qu'il jouait chez Alice Rohrwacher dans La Chimère, et par une bande-son impeccable. On a rencontré Kelly Reichardt lors de son passage à Paris.
Paintings were all in one small gallery on the second floor. Paintings come off the wall.
They're cleaning up in there.
Go into the cases, down to the waiting car.
JB?
Yeah, the guys are here. They're leaving in a minute.
You don't look like cops.
See, James, we've been told that you're mixed up in this robbery at the museum.
You got the wrong idea. I'm afraid you got some bad information.
Don't take it out on me. What could I do? This is all your fault, JB.
I just need a little time to get some things straight. Are these clean?
Bonjour Kelly Reichardt.
Hello and thanks for having me.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Je crois que c'est un projet ancien, The Mastermind. Vous y aviez déjà pensé dans les années 90. Comment est-ce qu'un projet vit aussi longtemps dans votre esprit? Comment est-ce qu'il évolue? Est-ce que vous vous souvenez comment vous l'aviez pensé au départ par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui?
C'était pas vraiment un vrai projet auparavant dans mon esprit. C'était juste des petits bouts de journaux que j'avais gardés sur des casses, des cambriolages, mais ça n'avait pas pris la forme d'une histoire encore pour moi. Mais en fait, au tout début, mon idée, c'était de faire plutôt un film essai sur un vol d'œuvres d'art, quelque chose d'assez différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Et Lucy Sands, l'autrice, avec qui j'ai parlé pas mal de cette idée de ce film essai que je pourrais faire. Et elle aussi est une fan de Simenon, donc on a beaucoup parlé de ce personnage-là qui est quelque chose de, d'un peu maudit, d'un peu irrattrapable. Une sorte d'halo. Mais bon, Lucie, à l'époque, était déjà en train d'écrire et elle n'avait pas vraiment le temps de se consacrer à un scénario avec moi. Et finalement, je me suis retrouvée à écrire toute seule.
Et
à mesure que j'écrivais seul, c'était plus du tout un essai.
Ce qui est intéressant avec le film de braquage, c'est qu'il a presque la même structure que la fabrication d'un film. Il y a un projet au départ, il y a sa réalisation, et puis il y a l'après, ce qui se passe après. Vous, vous vous préoccupez beaucoup plus de l'après, ce qui se passe après le braquage dans ce film, que ce qui devrait normalement être l'acmé du film, la réalisation parfaite d'un plan, bon, qui parfois déraille un peu. Pourquoi est-ce que c'était l'après qui vous intéressait, Kelly Reichardt ?
Yes, it is an aftermath film.
Oui, c'est vraiment un film de l'après, du ressac en quelque sorte.
I started with the idea that I would
mon idée de départ, c'est que je reprendrais la structure du genre du film de cambriolage.
As the
mais à mesure que ce personnage lui-même, comme vous dites, avait aussi un projet, un plan qu'il met en place, on a tous les deux cette espèce de guide. Et puis, à mesure que lui, son projet déraille, ben, moi aussi, je me laisserai aller à quelque chose de plus... plus spontané dans ce qu'on appellerait le deuxième et le troisième acte du film. C'était ça l'idée de départ, en tout cas du point de vue formel pour le film. Et en fait, en écrivant, écrire le début du film, c'est beaucoup plus facile que la partie plus ouverte.
On retrouve des éléments essentiels de votre cinéma, notamment le temps que vous prenez à regarder les gens vivre, accomplir des actions. Par exemple, dans un film de braquage, on dirait il cache le tableau dans la grange, juste une information, ça suffirait. Vous, vous montrez le temps que ça prend de faire les choses. Quel plaisir vous avez à filmer ces actions dans la longueur, Kelly Reichardt?
C'est vrai que j'adore filmer les gens qui font des choses. Faire un film, c'est déjà un processus long. Donc, il s'agit en fait de construire et de déconstruire. Construire, déconstruire, c'est comme ça que ça se passe dès le début de l'écriture jusqu'à la fin du montage. Faire et défaire.
Et
je prends le même plaisir à regarder les gens faire. Il y a cette caisse dans laquelle les peintures doivent être rangées, donc j'ai filmé une longue scène où le personnage joué par Josh construisait cette caisse. Mais après, je n'arrivais pas tellement à justifier la présence de ce processus tout entier. Et donc, finalement, il a fallu que je choisisse la grange, la scène de la grange, au détriment de l'autre pour ne pas non plus trop nuire à l'attention. En effet, si on se conformait plus au code du genre, il y aurait une action parallèle. Pendant ce temps, il y aurait quelque chose qui se passerait dans la voiture où il y aurait une référence à la notion de temps, une montre ou quelque chose pour qu'on donne et qu'il y aurait des plans de coupe entre deux scènes différentes, entre deux actions parallèles. Alors que là, on joue avec le temps d'une façon différente, plutôt que de donner une référence physique au temps ou plutôt que de couper entre deux séquences parallèles, on laisse le temps presque en temps réel, comme on dit. Ça apporte une autre nature de tension. Ça donne la possibilité de regarder vraiment un personnage, de le découvrir dans son aspect physique et le voir vraiment prendre en charge physiquement avec son corps ce qu'il a à faire. Il doit travailler. Et donc, que ce soit un film de braquage ou n'importe quel autre film de ce type, à un moment, le spectateur se dit, mais tu ne serais pas plus peinard à faire un métier normal que faire ça. Donc voilà, c'est une autre façon de faire ressentir quelque chose de cet ordre.
Alors, le film se passe en 1970, dans un territoire que vous n'aviez pas encore filmé, un Massachusetts, mais qui est beaucoup filmé, si j'ai bien compris, dans la région de Cincinnati, dans l'Ohio. Vous, à cette époque, vous deviez avoir 5-6 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose de vos souvenirs d'enfant, mais je dirais de souvenirs visuels, olfactifs, sensoriels aussi, que vous avez pu essayer de restituer?
Oui, pas mal. Peut-être que c'était pas tellement mon intention, mais finalement, quand on a fait des films, j'avais presque quelque chose d'une réminiscence viscérale du temps tel qu'on le vit quand on est enfant, ou juste les promenades, ou comment on percevait le temps avant l'ère d'Internet, que j'avais complètement oublié, et ça me revenait par bouffées pendant qu'on tournait. Vraiment la notion du temps et le temps que je passais enfant dans les voitures. J'ai grandi en Floride et on passe tout son temps en voiture. Moi, j'étais plutôt malade en voiture. Ces voitures étaient immenses et on était juste ballottés à l'arrière. On nous emmenait de gauche à droite. Et ces souvenirs-là me sont revenus. Je crois que j'avais 8 ans. Mon premier souvenir politique, c'est quand Nixon a démissionné. Je me souviens que j'avais 8 ans. Et je me souviens qu'il a fallu qu'on sorte de la piscine et de regarder sa démission et voir un adulte, quelqu'un d'important, dans de sales draps et l'espèce de gêne que ça créait pour lui, que même les adultes pouvaient se faire engueuler comme ça. Et donc, je me suis dit que le fils de notre personnage principal peut ressentir ce genre de gêne pour son père.
D'autant que ce que le film raconte, c'est certes un braquage, mais on pourrait dire que c'est surtout l'histoire de quelqu'un qui veut échapper au monde, aux mouvements sociaux, politiques de son époque. Ce n'est pas quelqu'un qui manifeste contre le Vietnam, c'est quelqu'un qui ne voit pas trop ce qui se passe autour de lui et qui va très littéralement se prendre un retour de bâton du réel. Vous vouliez raconter ça aussi, comment on ne peut pas échapper à son époque ?
Je ne peux pas vraiment dire de quoi parle le film, parce que moi, je rentre juste dans l'univers de ce personnage et des problèmes qu'il rencontre. Mais c'est un bourgeois, plutôt beau garçon, plutôt talentueux, même s'il ne se donne pas beaucoup de mal pour en faire quelque chose.
You know, et as in 1970, you're in this phase of the 60s.
Cette and sensation en 70 people, aux États-Unis d'être dans une sorte d'après les années 60 et comme beaucoup d'autres Américains, d'être dans une sorte de rejet de sa classe sociale, de son environnement, de son éducation, mais ça fait tellement partie de lui, c'est tellement intrinsèque à sa personne qu'il ne s'en même plus compte des avantages dont il jouit et de la position qu'est la sienne. Ce que j'ai essayé de filmer tout ce qui était lié à l'arrière-plan politique de l'époque, vraiment à l'arrière-plan, parce que c'est à l'arrière-plan de son esprit. C'est pas du tout dans sa ligne de mire, c'est pas du tout quelque chose par quoi il serait concerné ou inquiété.
En tout cas, c'est un amateur d'art que ce voleur. Dans ce musée qui n'existe pas, il faut le préciser, vous l'avez construit vous-même. C'est quelqu'un qui ne va pas voler les tableaux qui ont le plus de valeur, il va voler les tableaux d'un peintre qu'il aime. Et je crois que c'est un peintre que vous aimez aussi, qui est Arthur Dove. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre intérêt pour ce peintre que vous partagez donc avec le héros de votre film, Kelly Reichardt?
Arthur Dove.
Oui, Arthur Dove.
Well known in America and
thought of reconnu aux États-Unis peut-être comme le premier peintre abstrait américain. Très inspiré par la nature, il vient d'une ville industrielle comme le personnage.
But in the 1970, he was not.
Mais en 1970, il n'avait pas du tout la cote. Donc moi, je l'ai d'abord utilisé dans mon scénario parce que c'est le premier peintre qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, bon, provisoirement, je mets son nom à lui et puis après, je vais remplacer par d'autres peintre américain, mais rien d'autre ne me convainquait vraiment. Et je me suis dit, finalement, ce garçon-là qui travaille le bois, le sens esthétique qu'il a, c'est finalement Dove qui lui correspond le mieux. Et donc, je suis revenue à Dove. Et j'aime bien le nom Dove, qui veut dire colombe. Je trouvais ça approprié pour le film.
The Phillips Collection in Washington D.C.
Et dans la collection Phillips dans la ville de Washington, il y a beaucoup de ses peintures. C'était le collectionneur principal des peintures de Dove. Et puis je connais quelqu'un qui travaille dans le musée Dove, donc ça m'arrangeait bien. Pratiquement, il faut aussi se poser ces questions-là. Où est-ce qu'on va se procurer les peintures qu'on va avoir?
But I liked the idea that as a child when I grew up.
Donc j'aime bien cette idée. Quand moi j'étais petite, je n'avais pas le moindre accès à l'art. Mais on avait Masterpiece qui est un jeu de société. Et puis c'est une sorte de monopoly de la peinture. Et ce sont des peintures extrêmement connues. Le Picasso le plus connu, ou de Andy Warhol, des choses très facilement identifiables. Mais pour moi, quand j'étais petite, je me disais, bon, ça doit être ça, l'art. Et quand je suis allée à New York et que j'ai trouvé un petit boulot d'ouvreuse au Whitney Museum, je me suis dit, je vais aller les voir, ces peintures. Et puis, je me sentais vraiment reliée à ces peintures-là. Je n'étais pas encore capable de dire ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas, mais en tout cas, je pouvais dire ce qui m'était familier ou pas, ce qui appartenait à mon univers. Et lui, c'est pareil. Il a Il aime Dove parce qu'il en a entendu parler quand il était en école d'art et parce que son prof avait une affiche de Dove derrière lui. Donc voilà, ça lui parle, c'est tout.
Et puis enfin, Kelly Reichardt, votre film est presque hanté par le jazz, qui crée une tension très particulière tout au long du film. Il me semble que c'est un peu une nouveauté, cette présence du jazz dans votre cinéma. Comment est-ce qu'il s'est invité dans The Mastermind?
J'ai grandi sans art, mais avec le jazz. Mon père était enquêteur sur des scènes de crime. Donc, il travaillait de nuit et la journée, il faisait des siestes avec une pile de disques de jazz qui tombaient au fur et à mesure sur la table. Et donc, j'ai beaucoup écouté Coltrane, Sandra, Ferris Sanders. Et quand je travaillais sur le scénario, je me suis dit que le jazz y aurait sa place.
The film I associated with this time, the 70s.
Le jazz que j'associais au film et à cette époque, aux années 70. Et quand j'ai commencé le montage, on m'a parlé de ce groupe qui s'appelait le Chicago Underground. Je voulais une formation assez minimaliste, pas plus de 3 ou 4 instruments. Et donc, ce groupe me paraissait bien. Et j'ai rencontré Rob Mazurik, le trompettiste. Et finalement, c'est lui qui a composé la bande originale du film.
Merci beaucoup, Kelly
Reichardt.
Thank
you so much.
A little spark of fire in Hollywood, the name. The spark of the spark of the spark makes a mighty flame. Believe me, baby, baby, one thing I'm certain of. Kiss after kiss after kiss makes a big, big love.
The Mastermind est lui aussi en salle depuis ce mercredi. Merci à Massoum El Haïdji d'avoir traduit les propos de Kelly Reichardt. On retrouve la cinéaste à l'honneur de la Cinéthèque. La cinémathèque en ligne des cinéastes, c'est la cinéaste du mois avec la liste de ses 50 films préférés où la Wanda de Barbara Loden côtoie le John McCabe de Robert Altman et l'argent de Robert Bresson, le sang toinillois d'Agnès Varda, bel autoportrait par les films des autres. Vous êtes toujours sur France Culture, vous écoutez Plan Large et après le Massachusetts, c'est dans les marais de l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate que nous vous emmenons sur les pas d'une petite écolière de 9 ans, chargée par son terrible maître d'école, suite à un tirage au sort, de confectionner un gâteau pour l'anniversaire du président. Sauf qu'on est dans l'Irak des années 90, sous des sanctions américaines qui rendent introuvables les ingrédients les plus basiques et que le président en question est le terrifiant Saddam Hussein, omniprésent sous forme d'image qui semble vous surveiller en permanence. Commence alors pour la petite Samia une quête picaresque qui a valu à son réalisateur Hassan Hadi, premier cinéaste irakien en sélection officielle de toute l'histoire du Festival de Cannes, une très méritée caméra d'or pour un premier film qui emprunte aussi bien au réalisme social qu'à la fable onirique et qui n'est pas sans évoquer les débuts du voisin iranien Abbas Kiarostami quand il faisait des films pour enfants pour l'Institut Kanoun et en particulier « Où est la maison de mon ami Hassan Hadi ?»
ناصر محمد علي
نعم استاذ شكرا استاذ
اما الطالب المميز اللي راح يكون يجيب لنا الكيكه مال الاحتفاليه راح يكون لميحه احمد نايف
نعم استاذ
مبروك لميحه هذا اكبر شرف لك وريد ميحه تسوي لنا كيكه كبيره وتحشيها زين بالجيمر الزايد داريها ترى صار هواي منتظر هالكيكة ومتأكد الكل نفس الشيء لا تقيبين ظني
صار استاد
عافية قعدي
I discovered Kiarostami, I think.
J'ai découvert Kiarostami
when I was around 10, 11,
quand j'avais 10
like
ou 11 ans.
I was still a child.
J'étais encore enfant.
And at the beginning when I saw my Where's My Friend's House, it felt
Et quand j'ai vu la maison de mon ami, pour moi c'était comme un documentaire.
This is a film.
Ça ne me semblait pas être une fiction. Et maintenant, quand je le regarde aujourd'hui, en tant
qu'adulte,
je trouve que c'est la meilleure façon de faire de l'art, c'est vraiment avoir un point de vue différent. Enfant ou adulte, on voit le côté conte de fées, tous les éléments de la fable.
But again, I feel like our stories are similar in a way that are simple, but like they
dive. La simplicité entre nos histoires est commune,
and the community
et ça permet de fouiller un peu la société.
Vous avez choisi de travailler avec un directeur de la photographie roumain qui s'appelle Tudor Vladimir Pandurou, et pas n'importe qui, puisqu'il a travaillé avec Christian Mungiu, notamment sur Baccalauréat et RMN. Pourquoi est-ce que vous êtes allé le chercher? Chez lui.
Because I like his style, I like his
j'aime son esthétique, j'aime son œil.
For scenes, but also I think
et je pense
he understood what I was trying to convey in
qu'il a compris ce que je voulais transmettre avec cette histoire. Ça, c'était très important pour moi. Il a apporté un point de vue visuel, notamment passionnant
and
dans le film.
Being from Romania,
le fait qu'il soit roumain et qu'il
means,
comprenne ce que c'est que la dictature, ça a beaucoup aidé.
Sort of
on a trouvé
us.
Vraiment un langage
and
commun.
It's funny enough, I mean, it's not also very strange that
et ce qui est étrange, c'est que son dictateur était le meilleur ami de mon dictateur. Et d'une certaine manière, je crois que lui aussi, il a un petit peu pris dans ses souvenirs.
Oui, et notamment en construisant cette image qui est loin du misérabilisme qu'on voit beaucoup dans le cinéma d'auteur international quand ça se passe dans des pays pauvres ou dans des dictatures. Vous faites une image qui est à la fois très belle, un peu onirique, mais très réaliste en même temps. Alors, comment est-ce que vous en avez discuté, justement, avec Tudor Vladimir
Pandurou?
Ce qui nous a intéressé dès le départ, c'était de créer cette image paradoxale. De belles images, mais qui montrent une réalité rude. Donc, on voit d'abord, en ouverture, l'image sur l'eau, avec des palmiers, et de très belles images avec des gens qui, ensuite, demandent de l'eau. Et ensuite, on voit la destruction, on voit le désespoir. Et en fait, ce ton, cette touche, on la retrouve dans tous les plans du film. Par exemple, au moment du checkpoint, à l'arrière-plan, on voit l'un des sites historiques les plus anciens, la ziggourat d'Ur, où Abraham a été sauvé des flammes. Et là, dans le film, on voit des corps qui sont emmenés au cimetière. Donc ça, on en a discuté de la façon de créer un paradoxe à l'intérieur de l'image, une image onirique et belle, mais aussi rude.
Gâteau du Président est en salle depuis mercredi. C'est Anaïs Duché qui interprétait les propos de Hassan Hadi. Vous écoutez France Culture Plan Large et pour poursuivre une exploration filmique des régimes dictatoriaux, on vous recommande une riche rétrospective nantaise consacrée au totalitarisme. Le Métropolis de Langue y dialogue avec le dictateur de Chaplin, Sa Majesté des Mouches avec La Ferme des Animaux et Le Roi et l'Oiseau. 16 films à voir au cinématographe à Nantes jusqu'au 30 mars. Ça se clôturera par la projection du passionnant Orwell 2+2=5 de Raoul Peck, qui sera prochainement notre invité dans Plan Large. Et Raoul Peck qui bénéficie également d'une rétrospective personnelle à l'Institut Lumière à Lyon en sa présence du 7 février au 1er mars. Le regretté Peter Watkins, disparu le 31 octobre dernier, aurait pu y figurer dans cette rétrospective totalitarisme avec son formidable et terrifiant Punishment Park. Il sera à l'honneur Peter Watkins du festival Regard Satellite en rétrospective aux côtés de Pedro Pigno, Laila Bouzid et Andrzej Marseille, Vaïda et beaucoup d'autres encore. C'est au cinéma L'Écran à Saint-Denis et dans toute l'Île-de-France du 13 au 22 février. Sur une thématique proche, le Festival des cinémas engagés, c'est à Clamecy dans la Nièvre du 13 au 16 février avec là aussi d'ailleurs une projection de Punishment Park mais aussi de l'excellent Soulèvement de Thomas Lacoste. Enfin, en codicile à l'émission que nous avions consacrée au tournage du Shoah de Claude Lanzmann avec Guillaume Ribaud et son indispensable documentaire Je n'avais que le néant, on signale la parution d'un livre très intéressant, Shoah après Lanzmann, archives, témoignages, réceptions. C'est aux presses universitaires de Rennes sous la direction de Rémi Besson et d'Emmanuel Lévin. Ceci annoncé, on reste en territoire totalitaire malgré la musique enjouée et la politesse du voisinage.
Dobrý den.
Dobrý den.
Buď rád. Dobrý den.
Dobrý den.
Un petit coin de quartier enneigé où entre voisins, policiers, bistrotiers, marchands de journaux et petits garçons se saluent très aimablement d'un Dobrý den qui veut dire bonjour en tchèque. C'est le début de Personne ne rira, le premier film d'un cinéaste à rien oublier de la nouvelle vague tchécoslovaque qui avait fleuri dans les années 1960 avant la répression par les chars soviétiques du printemps de Prague. On se souvient de Miloš Forman et de Vera Chytilova, bien sûr, pour les plus cinéphiles aussi de Yuri Menzel et d'Ivan Passer, mais il était grand temps de mettre en lumière cette Hinek Botchan, le réalisateur de ce Personne ne rira, adapté en 1965 d'une nouvelle de celui qui était son professeur de scénario à la FAMU, l'Académie du cinéma de Prague, un certain Milan Kundera. Sophie-Catherine Gallet.
Oui, on rencontre de fait dans le film plusieurs thématiques connues de cet auteur. Les deux axes qui structurent le film sont ainsi l'usage subversif de l'humour et la description de ce qu'on appelait alors une démocratie populaire. Deux axes déclinés en grammaire cinématographique, mêlant le comique de situation et de son à des hasards et des situations kafkaïennes qui, conjuguées, donnent un film cruellement drôle et politique à la fois. La description de la société tchèque, la question du regard et de la doxa officielle sont mis en scène dès le premier plan. Une cour d'immeuble est filmée en plongée, de très haut, le matin. Sur le blanc éclatant de la neige vierge, quelques personnages, des points noirs s'activent. D'abord un, puis plusieurs, des hommes, des femmes, qui commencent leur journée en inscrivant peu à peu un chemin terreux, noir dans cette neige. Un chemin tout en circonvolution, mais parfaitement respecté, sans que quiconque essaye de s'en évader, malgré quelques tentatives rapidement abandonné. La séquence est aussi accompagnée d'une musique qui lui confère un côté drôlatique qui fait beaucoup penser au comique de bruit et de situation de Jacques Tati. Puis, comme on l'entendait dans le son d'introduction à l'instant, le plan suivant montre les bonjours égrenés par toutes les personnes qui passent dans cette cour. Salutations notamment adressées à deux vieilles personnes collées à leur vitre qui regardent passer les gens. Cette première séquence construit comme ça un microcosme humoristique entre impression assez sympathique d'un lieu où tous se connaissent et sensation nettement moins sympathique d'un lieu où tous s'observent. Car dans ce récit, il est en effet question avant tout de regard, de bienséance, de respect des règles, mais aussi de mensonges. Le personnage principal est un professeur d'histoire de l'art débonnaire, Karel Klima, qui accepte de faire le compte-rendu d'une étude d'un homme qui lui est alors inconnu, avant même d'avoir lu son travail. Il se rend compte ensuite de la médiocrité du texte et tente par tous les moyens de ne pas honorer honorer sa promesse par tous les moyens, c'est-à-dire en accumulant les mensonges et les lâchetés plutôt que d'opter pour une confrontation directe. Accumulation donc de mensonges qui vont le conduire de Charybde en Scylla et permettre de construire un récit aussi grinçant que drôle sur la médiocrité, mais aussi sur le pouvoir salvateur d'une forme de désinvolture érigée en art de vivre. Cette désinvolture se transforme en humour souvent noir et dicte donc le rythme du film. Et cela en fait dès le titre, parce que personne ne rira, qu'on pourrait comprendre en fait de trois manières différentes. D'abord comme une antiphrase qui indique l'exact opposé, c'est-à-dire que le film est drôle et fera donc rire. Mais aussi comme rappel de la subversion que peut représenter le rire dans un régime où l'humour est très vite suspect. Enfin d'une troisième manière, qui est qu'au fond rien de ce récit n'est en effet très drôle, puisque sous couvert de situations qui semblent comiques, de mécanismes narratifs kafkaïen en jeu de mise en scène burlesque, le film offre surtout un constat assez terrifiant d'une société concentrée sur la bonne tenue, encline à la délation, et où le moindre pas de travers peut mettre au banc un homme et détruire sa vie. Un des premiers plans d'ailleurs confirme cette dernière piste. Des pieds pendent dans la moitié haute du cadre et donnent l'impression de voir un pendu. Mais l'illusion est rapidement détruite, il ne s'agissait que d'un homme faisant ses tractions. Le film est comme ça donc truffé de fausses pistes qui usent de l'humour noir pour dénoncer une société délétère. Humour qui se transforme même en franche rigolade dans les stratagèmes mis en place par Climat afin d'échapper à l'homme qui le poursuit pour obtenir sa critique. Stratagèmes construisant un jeu du chat et de la souris dans Prague et dans l'Université des Arts par des plans n'ayant pas peur de jouer ni du vide ni du fouillis, des premiers plans et des arrière-plans et des disparitions dans les décors. Mais à travers ce jeu de cache-cache, de petits mensonges et de lâchetés, d'omissions, de délations, on ressent malgré tout une grande douceur du regard portée sur tous les personnages principaux, de Climat à celui qui essaye à tout prix d'obtenir sa critique, jusqu'à la femme de ce dernier dans une des séquences finales, une séquence extrêmement touchante où enfin les masques tombent. Un personnage féminin subtil, jusque-là présenté comme assez hargneux, et qui soudain révèle son désarroi et son amour aussi pour son mari. Un personnage de femme qui fait alors écho à un autre personnage féminin central, puisque c'est avec elle que nous entrons dans le récit, mais dont je n'ai pas encore parlé, Clara, qui est la compagne de Karel Klima. À travers ce personnage s'amorce un discours en fait sur la place de la femme, d'apparent prétexte narratif pour mettre en valeur le personnage principal, c'est-à-dire n'existant que comme son amante, son personnage se transforme un tout petit peu et prend une autonomie dans certaines séquences où, seule dans l'appartement, elle s'amuse, se crée un univers qui lui est propre, un monde de l'onirisme, du rire, construit avant tout pour elle-même. D'une certaine manière, en fait, c'est par ces pas de côté inattendus, comme les timides tentatives d'évasion du chemin terreux de la scène d'introduction, que le film tire sa force et parvient à créer des personnages attendrissants, et en particulier celui de Karel Klima, qui de gentiment lâche devient un emblème de liberté, par l'amusement qui continue à primer pour lui quoi qu'il arrive, par le rire, et pour jouer un peu sur le titre d'un roman alors encore à venir de Kundera, par la délicieuse légèreté de l'être de Karel Klima, qui déserte allègrement une vie dictée par la morale de cette société.
merci Sophie Catherine Gallet. Personne ne rira de Inek Botchan. C'est à découvrir en salle et en version restaurée à partir de mercredi prochain. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Maël Arfassor, Olivia Branger et Mineta Diawara. L'émission a été préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.